Bonjour à tous.
Bonjour.
Ben voilà, tout à coup, ça fait vite. Bon, on va mettre un petit peu un stand-by. Il me manque quelque chose. Voilà. Le livre des Actes. Pour une petite série qu'on avait envisagée le mois de... quand on a lu le livre, Patrick et moi, c'était au mois de novembre, je crois, qui parle de l'autorité. Donc c'est un ouvrage, donc c'est un ouvrage sur le thème de l'autorité. Alors on aime bien la prédication, les messages qui se suivent dans l'église, c'est bien, mais bon, de temps en temps, ça permet d'aller droit au but au moins. Et donc ça va être le cas, hein. L'autorité, ben vous le constatez, c'est la malédiction de notre 21e siècle. Hein. Et depuis les années 2020, il y a beaucoup de cas d'abus d'autorité qui sont rendus publics, de violence aux personnes, de violence exercée par les personnes détentrices de l'autorité. Et ce qui a mis à mal la notion même d'autorité. Et donc, une sorte de rejet. Et on a même un parti politique, vous savez, qui déclare son insoumission à tout ce qui est une autorité. Et on voit un malaise dans notre société par rapport à cela. Et c'est partout la même chose en Occident, c'est pas spécifique à la France, hélas. Pour autant, on sait bien que l'autorité est indispensable, hein. Sans autorité ça ne fonctionne pas, et comment protéger justement les abuseurs s'il n'y a pas une autorité au-dessus qui est capable de protéger le faible. Donc paradoxalement, on a besoin, et tout le monde le sait, qu'on a besoin de l'autorité, même si on n'est pas toujours d'accord avec, il faut bien reconnaître qu'on en a besoin. C'est un également, l'autorité est partagée par tous les êtres humains. Hein. Tous les êtres humains ont une parcelle d'autorité qui leur incombe. Hein. Et même les enfants, quand ils sont en bas âge, voilà, ben, l'aîné de la famille a une autorité naturelle sur ses petits frères, sur ses petites sœurs. Hein. Et même un tout petit bébé. Ben, il va prendre l'autorité sur tout ce qui est ses jouets, tout ça. Il va exercer une forme d'autorité à son tout petit niveau. Alors, on va voir éclaircir un petit peu les choses en ce qui concerne cette autorité. Il va y avoir quatre messages. Donc, tiré de ce livre-là, donc Jonathan Liman, je vais m'appuyer beaucoup sur lui. On va juste voir trois chapitres, et il y en a quatre chapitres, et il y en a 15, 16, 17. Donc, on ne va pas tout voir, loin s'en faut, mais si ça peut vous donner l'envie d'acheter ce livre, de le lire, c'est un petit peu le but aussi. Alors, on va voir l'autorité créationnelle qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué l'autorité, qui l'a déléguée, qui a donné de l'autorité aux hommes. Et cette autorité, elle a été déchue, elle a été également corrompue par le péché. On verra ça dans un deuxième temps. Et également l'autorité rédemptrice qui est en Jésus-Christ et qui répare les choses. Et de quelle manière cette autorité répare les choses, on verra ça également. Et on verra également les différentes autorités que Dieu a mis en place. Elles sont pas toutes les mêmes et elles s'exercent pas dans le même domaine, et on fera ça un petit focus là-dessus pour terminer. En tout cas, voici le titre du chapitre 1. L'autorité est une belle création de Dieu, un cadeau de sa part pour partager son règne et sa gloire. Alors tout un programme, mais de quoi ça parle. Alors peut-être ça vous surprend, et je vais suivre un petit peu le déroulé que Jonathan Dieman procède dans son livre, c'est-à-dire il donne l'illustration avant de donner l'enseignement. D'habitude, on fait l'inverse. Mais là, on va suivre un petit peu avec l'illustration. Et dans, là, il a trouvé une illustration, un témoignage que je vais vous lire. Pardon. Ce sont les premiers mots qu'Angela m'a dit lorsque j'ai finalement réussi à la voir au bout du fil. Quelques semaines plus tôt, j'avais annoncé à mon église, donc Jonathan Dieman, l'imam et le pasteur, aux États-Unis. J'avais annoncé à mon église que j'écrivais un livre sur l'autorité et j'avais demandé aux membres s'ils pouvaient me raconter leurs expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en lien avec l'autorité. Angela a été enthousiaste à l'idée de pouvoir m'aider. Il n'y avait pas de mauvaise surprise dans son histoire. Aucun rebondissement ou déconvenu ne vient troubler son récit. Peut-être vous semblera-t-il parfaitement ennuyeux. Il s'agit simplement d'une femme dans la quarantaine, mère de 3 enfants et épouse d'un mari formidable qui fait l'éloge de son père, ou qui plutôt l'encense. J'aimerais tellement que vous puissiez l'entendre, entendre l'enthousiasme qu'elle dégage quand elle s'exprime. Elle a commencé comme ça. J'aime beaucoup parler de mon père. Tout d'abord, Angela m'a expliqué que son père, qui était pasteur à plein temps, mettait un point d'honneur à passer du temps avec elle et ses frères. Un point d'honneur à passer du temps avec elle et ses frères et sœurs. Il nous a toujours consacré du temps, il était disponible, il venait à mes auditions de piano, il entraînait mon équipe de basket, il était à la maison pour le souper. Mon école était juste en face de l'église où il travaillait, et une semaine sur deux, il m'autorisait à sortir pour partager le repas de midi avec lui. Il était disponible, il voulait passer du temps avec moi, et moi, en retour, j'avais envie d'être avec lui. Plus loin, ce qu'il disait, nous le faisions. Il nous fixait des limites. S'il me disait d'être rentré pour 10 heures, je savais que je devais m'y tenir. Mais c'était positif. Je lui faisais confiance. Je savais qu'il posait mes limites par amour. Et comment savais-tu qu'il faisait cela par amour? Je savais simplement qu'il était de mon côté. J'aimais beaucoup la musique. Lui ne connaissait rien à la musique. Il n'y comprenait rien du tout. Il était à fond dans le sport. Parce que j'étais très grande, je me demandais si, au fond de lui, il ne voulait pas que je sois joueuse de basket ou de volley. Mais il n'a jamais manifesté la moindre déception parce que je faisais ce que je voulais faire ou ce pour quoi j'étais douée. Au contraire, il était fier de moi. Il me soutenait et était présent chaque fois. Angela m'a raconté une anecdote survenue alors qu'elle était au lycée. Elle sortait régulièrement avec ses amis. Comme à son habitude, son père lui avait donné une heure précise pour rentrer. Mais ce jour-là, elle ne l'a pas respectée. Il a téléphoné à l'endroit où elle avait dit qu'elle se trouvait, mais elle n'y était pas. Quand elle est arrivée chez elle, elle a trouvé un mot sur lequel était écrit « Angela, je t'ai cherché, tu n'étais pas là, où tu avais dit que tu serais, je suis déçu. J'ai amené toute la famille pour une sortie à la plage. Après avoir lu son message, je me souviens avoir ressenti une immense tristesse. Plus tard, quand ma famille est rentrée, mon papa n'a pas essayé de m'enfoncer davantage. Il n'a eu ni réprimande, ni leçon de morale. Il savait qu'avoir manqué cette excursion serait suffisant. Et il avait raison. J'étais très triste à l'idée d'avoir raté une des bénédictions de mon père. En effet, il avait bâti notre famille autour d'une confiance et d'un amour liés à la joie de recevoir ses bénédictions. Alors, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu en Genèse chapitre 1. On connaît très bien ce passage, on connaît très bien ce livre, ce début de livre de la Genèse, On en a souvent parlé ici. Et puis c'est le premier qu'on trouve hein, quand on ouvre nos Bibles. Et voilà ce qu'on lit donc. La création en 6 jours et le 7e jour de repos. Et on va relire ensemble le premier jour. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et ensuite, il y a la séparation des étendues, il y a la terre ferme, les arbres fruitiers qui poussent, le soleil, les étoiles, pour marquer le temps. Et ensuite, le 5e jour, au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit des animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il le créa homme, mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, tout ce qui se meut sur la terre, il y a un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors on voit par sa parole d'autorité, Dieu crée quelque chose, et ce qu'il crée est très bon. Et c'est un, vous voyez comment il a déclaré que les choses soient avec une parole d'autorité, et ce qu'il a créé était très bon. Il le déclare lui-même, et on le constate aujourd'hui quand on regarde la création, quand on regarde les poissons dans les mers et le printemps qui arrive et tous ces merveilleux paysages et la délicatesse de la moindre petite fleur. Et tout cela est merveilleusement beau. Et quand on entend également l'eau qui coule, le murmure de l'eau qui coule, ou le chant des oiseaux, le souffle du vent, dans les feuilles, tout est écrit la gloire de Dieu. Dieu, par son autorité, a créé des choses qui étaient très bonnes. On apprend aussi donc que les humains sont créés à l'image de Dieu. Et ils reçoivent le mandat de régner sur la création, de la dominer. Ils reçoivent ce mandat de régner, c'est pas que la terre leur appartient, mais ils reçoivent le mandat de, en quelque sorte, de représenter Dieu sur la terre, parce qu'ils sont porteurs de son image. Cette mission de représenter Dieu sur la terre, de la gérer, de l'administrer, de prolonger, d'étendre son travail de création, d'organisation, d'administration. Et donc, pour cela, ils reçoivent une autorisation, une autorité. Avoir de l'autorité, c'est recevoir une autorisation. On voit par exemple celle de consommer des végétaux. Et donc, toute autorité humaine s'inscrit dans le fait qu'il reçoit ça d'une autorité qui lui est supérieure. Et donc, l'autorité qu'exerce l'homme sous-entend qu'il est lui-même soumis à l'autorité de Dieu. Toute autorité vient de Dieu et est là pour servir ses objectifs, créer avec générosité de belles choses et de bonnes choses. Genèse chapitre 2 nous propose un autre récit. Je vais lire les versets 4 à 8. Voici les origines des cieux et de la terre quand elles furent créées. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'ombre pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Un petit peu plus loin, verset 15. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel lui donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, qui soit son vis-à-vis, semblable à lui. Et une aide dans le sens ici d'une personne qui est de son niveau. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous unis et ils n'en avaient pas honte. » Par contraste au chapitre 1, le chapitre 2 montre la proximité de Dieu avec sa création. Et on voit qu'il façonne lui-même l'homme avec de la terre. Il met ses mains dedans. Il plante lui-même le jardin. Et on le voit qu'il écoute le nom que l'homme va donner aux animaux. Il est là, il est à côté. Et il y a cette magnifique phrase du verset 23 et 24. Quand l'homme découvre la femme, il dit « Voici cette femme, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et le 24, c'est Dieu qui ajoute dans la foulée comme s'il était là. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un Dieu qui est pas... qui est, dans le chapitre 1, on le voit beaucoup, transcendant. Il est celui qui est au-dessus. Il est celui que les hommes ont appelé le Très-Haut, qui ordonne et les choses s'exécutent. Et dans le chapitre 2, il est beaucoup plus, on dit, imminent. Il est proche de l'homme, il est avec lui, proche des humains, au milieu d'eux. Et donc, il y a ces deux aspects dans la relation de Dieu avec les hommes, à la fois au-dessus des hommes, à la fois celui qui a, qui donne des ordres, qui donne des instructions, et tout s'accomplit selon sa volonté, et à la fois il est proche, de l'homme, il est avec lui, il le visite dans le jardin le soir. Il est, on dit, immanent. Cette immanence se voit ensuite, même après ce qu'on appelle la chute. Hein. On voit que Dieu donne des conseils à Caïn, et quand il sanctionne le meurtre, c'est pas Dieu qui s'éloigne de Caïn, mais c'est Caïn qui s'éloigne loin de la face de l'Éternel. Il y a aussi ce contraste entre la transcendance de Dieu quand il se manifeste sur le mont Sinaï des siècles plus tard, avec, là on est dans l'histoire de Moïse, de la sortie du peuple d'Égypte, où le peuple arrive au mont Sinaï, et là Moïse monte vers l'Éternel et la montagne est embrasée et on entend du tonnerre, et c'est quelque chose qui est tellement impressionnant que le peuple même ne peut pas entendre cela. Et ensuite quand il voyage dans le désert, là Dieu est au milieu de son peuple, au-dessus d'une petite, un petit coffret de bois qui contient les textes de la loi. La présence de Dieu est au milieu de son peuple dans le tabernacle, et là il est proche de lui, il est au milieu de lui. Et donc on a ces deux, la transcendance et aussi l'immanence de Dieu. Et dans le témoignage qu'a rapporté Angela, on voit ces deux côtés dans la façon dont son père exerçait envers elle l'autorité, à la fois un père qui était un peu au-dessus et qui donnait des instructions qui n'étaient pas toujours peut-être acceptées. Dieu a parachuté des commandements quand il a dit à Adam et Ève, voilà, il y a un arbre, celui-là, l'arbre de vie, ça va, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas que vous en mangiez. C'était quelque chose qui était incompréhensible, et même maintenant, quand on réfléchit à tout ça, on se dit, mais pourquoi Dieu a donné cet ordre? C'est quelque chose d'incompréhensible, Dieu est transcendant. Et le papa était aussi une sorte de transcendant envers sa fille, et il était aussi avec elle, passer du temps avec elle, et les deux, dans l'exercice de l'autorité, vont ensemble. Les deux marchent ensemble. L'autorité bien exercée est une bénédiction. Maintenant, si on revient à notre situation, notre condition humaine, David, qui était roi, qui a exercé l'autorité en tant que roi d'Israël, à la fin de sa vie, écrit ceci. Donc, je vais lire un extrait de 2 Samuel 23, 1 et 4. Les dernières paroles de David, donc. Nous lisons ceci. Voici les dernières paroles de David, paroles de David, fils d'Isaïe, 2 Samuel 23. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après lui font sortir de terre la verdure. Ainsi compare David à une personne qui exerce l'autorité avec la crainte de Dieu, celui qui règne dans la crainte de Dieu. L'autorité bien exercée est une bénédiction. Elle fait grandir et renforce ceux qui y sont soumis. On peut penser au bon manager, hein. Un bon manager dans le travail, c'est celui qui va favoriser l'épanouissement de ses subordonnés. Quand on rentre quelque part, on est au niveau zéro, hein. On rentre dans un emploi, voilà, on fait ce qu'on nous dit de faire. Et puis après, quand on passe au niveau 1, on s'approprie le travail, on est capable de le faire de façon autonome, on acquiert de l'autonomie. Alors on est au niveau 1. Et puis, un bon manager va favoriser pour arriver au niveau 2, être capable d'enseigner ce travail à d'autres, être capable de l'enseigner à d'autres. Et le niveau 3, l'améliorer ce travail, apporter de l'innovation dedans. Et bien sûr, voilà, c'est l'épanouissement du salarié dans son travail qui enrichit le travail, qui crée de la richesse. Hein. Il y a un niveau moins 1 qui existe, si ça se passe pas bien, hein, ben ceux qui ne veulent pas ou qui ne sont pas avec des bons managers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben ils vont saboter le travail. Hein. Ça va être le niveau, on appelle ça le niveau moins 1. Les entraîneurs sportifs, leur objectif, faire progresser le groupe. Hein, les grands clubs, ils se disputent les coachs. Hein. Mais malgré le meilleur coach, il faut que les joueurs se soumettent à l'entraînement du coach. Autrement, ça ne marche pas. Hein. On a une malheureuse expérience de l'équipe de France. Vous vous souvenez du mondial de 2010, où les joueurs, là-bas, ils étaient en Afrique du Sud, je crois que c'était. Et ils ont fait grève, la grève de l'entraînement. Mais des enfants, c'était des joueurs immatures, complètement immatures. Hein. Donc, il ne suffit pas d'avoir un bon coach, il faut aussi savoir se soumettre à lui. L'autorité et la soumission marchent ensemble. L'autorité bien exercée, donc si ça fait grandir ceux qui y sont soumis, ça les fait progresser. L'autorité bien exercée fait grandir ceux qui l'exercent aussi. Pourquoi ? Parce que quand on veut bien exercer l'autorité, eh bien, on va regarder le modèle de Jésus et on va être je vais dire contraint, c'est peut-être pas, mais c'est contraint en quelque sorte à ressembler à Jésus. C'est le parfait modèle dont nous avons besoin pour exercer l'autorité. Au lycée de Saint-Joseph, j'avais assisté à une début d'année, voilà, les élèves étaient là. C'était en 2010 junior, je crois. Et donc, il y avait une grande réunion où ils réunissaient tous les parents. Et là, le directeur a fait son speech à tous les parents, début d'année. Et il a dit que son modèle d'autorité, il le trouvait dans les évangiles. Il disait, mon modèle d'autorité, c'est Jésus-Christ. Et j'ai eu l'occasion d'assister, de rentrer dans le bureau, dans l'administration de l'école. Et là, j'ai vu la façon dont il parlait au personnel qui était avec lui. Et c'était des relations qui étaient très... c'était une secrétaire, une dame âgée, elle avait un petit nom, il l'appelait par son petit nom, on voyait qu'ils étaient... bien de travailler ensemble. C'était vraiment un endroit où moi j'aurais tout de suite souscrit pour aller dans l'administration de cette école. L'autorité bien exercée fait grandir ceux qui l'exercent. Et l'autorité crée aussi des groupes et donne des missions. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes créés pour avoir une vie sociale fructueuse qui nous permette de nous épanouir, de donner du fruit. Et qui dit vie sociale dit création de groupe. Et qui dit création de groupe, il faut qu'il y ait un leader. On le sait, si dans un groupe il n'y a pas de leader, il n'y a pas de groupe en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va fédérer, ou plusieurs, hein, qui vont fédérer un petit peu, qui vont être là pour animer ce groupe, ça ne fait pas de groupe du tout. Hein. Et les groupes, chez les hommes, ils se donnent généralement des chefs qui leur confèrent une autorité, c'est-à-dire ils donnent des autorisations. Avoir une autorisation pour prendre des décisions, pour donner des instructions dans un domaine donné. Bien évidemment, si vous allez à un club de gym, vous allez suivre ce que vous dit le prof de gym. Mais vous n'allez pas écouter le prof de gym en ce qui concerne, par exemple, le choix de l'école de votre enfant. Ce n'est pas son domaine où il a de l'autorité. Pas du tout. Hein. Donc, l'autorité crée, c'est ce qui permet d'avoir des groupes sociaux avec des missions pour chacun, pour réaliser ensemble quelque chose de bien, quelque chose de beau, hein, quelque chose d'utile. Et enfin, l'autorité bien exercée, elle enseigne sur Dieu. Elle enseigne sur Dieu. Je reprends la lecture ici du livre, page 57-58. Le dernier objectif de l'autorité était jusqu'ici implicite et mérite d'être expliqué. Exercer l'autorité enseigne aux gens à quoi Dieu ressemble. Je peux expliquer cela de deux manières. Je peux parler comme un philosophe et vous dire que l'autorité nous enseigne la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux, entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est digne et ce qui est indigne, ce qui est vrai et ce qui est mensonger, ce qui est saint et ce qui est profane. Ou alors je peux parler comme un théologien et vous dire que l'autorité nous enseigne sur Dieu, puisque Dieu est la source de tout ce qui est juste, bon, digne et vrai. Je vais commencer par l'approche philosophique. L'autorité existe parce que la morale et la vérité existent et parce que le sens, la valeur, l'intentionnalité, la gloire et la beauté existent. L'autorité est de l'exigence morale qui découle de l'existence de tous ces principes. Dans un univers qui n'aurait ni valeur, ni signification, ni vérité, ni bonté, universelle et commune, nous n'aurions pas besoin d'autorité. Mais s'il existe des valeurs, des vérités, du sens à protéger, à maintenir, alors l'autorité doit exister. Nous avons des règles concernant le vol parce que la propriété a de la valeur. Nous condamnons les meurtriers parce que la vie humaine est précieuse. Nous limitons l'intimité physique au mariage parce que l'union entre un homme et une femme est précieuse. En qualité de théologien, contrairement à ce qui a fait les animaux, Dieu a créé les êtres humains à son image afin que nous puissions renvoyer son image, la refléter tout en régnant sur la création. Il a fait de nous des représentants pour que nous puissions le représenter. Comme je l'ai mentionné précédemment, il n'a pas seulement fait de nous des rois, des personnes qui dominons, qui régnons, il a fait de nous des rois prêtres. En effet, les prêtres sont des médiateurs. Notre règne devait être une médiation ou une représentation de son règne à lui, à Dieu. Lorsque nous régnons comme il règne, nous montrons au cosmos à quoi ressemble notre Dieu. Dans un sens, l'autorité humaine n'est ni plus ni moins qu'un choix humain ou qu'une décision humaine. Dieu nous autorise à faire des choix et à les faire selon les principes de sa justice ou de sa loi. Ainsi, en exerçant notre autorité sur la terre, nous lui ressemblons. Donc je vais terminer avec la conclusion qu'Angela donne quand elle a terminé son entretien. En voyant son père exercer une autorité si généreuse et si stimulante, Angela n'a pu s'empêcher d'avoir envie de connaître Dieu. Voici comment elle a conclu notre conversation. L'un des dons les plus précieux que j'ai reçus, l'une des choses les plus chères que Dieu m'a donné, c'est une relation avec un Père terrestre qui a rendu la relation avec mon Père céleste attrayante, qui m'a donné envie de la développer. Donner envie de Dieu. Une autorité sage, aimante, conforme à la volonté de Dieu, a provoqué en elle le désir de connaître son Père céleste. Son Père a magnifiquement représenté, reflété l'amour et le règne de Dieu dans sa vie. Il a orienté ses regards vers le Tout-Puissant. Sans surprise, le Père d'Angela était lui-même un lecteur assidu de la parole de Dieu. Angela fait remarquer, mon Père était un homme sage, il étudie les Écritures. Et c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. À cet égard, il est comme le roi d'Israël évoqué en introduction à qui Dieu a ordonné d'écrire pour lui dans un livre un double de la loi et de le lire tous les jours de sa vie. En règle générale, une autorité bien exercée permet de conduire les gens à Dieu, alors qu'une autorité mal exercée peut les pousser à douter de lui, voire à le mépriser. Une autorité bien exercée est source de vie et mène à plus d'autorité. Une autorité mal exercée détruit à la fois la vie et l'autorité elle-même. L'autorité est transcendance et immanence, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un dosage entre les deux qu'il nous faut trouver et qui n'est pas facile. Hein, être avec et être en même temps en position d'autorité et être avec. Il faut que les deux existent. Alors, le témoignage d'Angela a quelque chose d'encourageant, bien sûr. C'est possible, ça montre que c'est possible de réussir à l'exercice de l'autorité. Et c'est possible également de s'y soumettre. Les deux ont fonctionné. Mais ça pourrait être aussi décourageant pour nous, parce que voilà, on se sent loin de ça, on se sent incapable, on n'a pas de bonnes expériences et on se trouve défaillant quant à exercer l'autorité, quant à se soumettre à l'autorité. Mais Dieu est Dieu et il est capable de sauver. S'il n'était pas capable de sauver, il ne serait pas Dieu. Dieu est capable. Il est capable de nous sauver. Dieu est aussi le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, 3. Hein. C'est le Dieu qui recueille nos larmes dans une outre, hein, dans le psaume 56. C'est aussi le Dieu qui essuie les larmes pour toujours, à la fin du livre Apocalypse 21, et je vais terminer par cette lecture. On aura lu le début de la Bible et on va lire la toute fin. Apocalypse 21, nous lisons ceci. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car les premières cieux et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle, la demeure, la résidence de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. L'autorité est une belle création de Dieu, un cadeau de sa part pour partager son règne et sa gloire. Oui, mais Seigneur, tout ce que tu as fait est beau et magnifique. Et nous ne savons pas l'apprécier, le comprendre, et nous ne savons pas l'appliquer, te ressembler dans toutes ces choses. Merci cependant pour les modèles que nous trouvons dans ta parole. Si on ne connaît pas physiquement des personnes, on trouve dans ta parole ce que nous avons besoin, et tout en particulier Jésus-Christ, qui est venu à nous avec grâce et avec vérité. Merci pour ta parole. Merci pour le bien qu'elle nous fait, parce que nous avons besoin d'elle, nous avons besoin de nous inspirer d'elle pour pouvoir exercer correctement cette autorité, une autorité qui te rend de gloire et qui donne envie de te connaître, envie de te chercher et de t'aimer. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.